Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Remue-ménage sur Ondes Femmes, Radio Zone 93,8. Et ce mercredi, Marianne, quel est votre menu ?
Alors le menu, enfin moi j'en connais qu'une
dans
partie.
Dans ma part, oui.
Dans ma part, bien entendu. Alors tout d'abord, nous allons parler en compagnie de Christine Détra, qui est ethnologue et conservatrice du musée d'ethnographie annexe de Conches. Tous des titres. Nous allons parler de l'évangile, les évangiles des quenouilles. Alors bon, je ne vous en dis pas plus. C'est un peu l'histoire du savoir des femmes au 15e, mais On y reviendra bien en détail. Et toi, je crois que tu nous as concocté quelque chose de...
Un hommage, et vous le découvrirez tout à l'heure, un hommage à un cinéaste qui nous a quittés récemment, hélas, et un hommage à une femme qui a joué un rôle un peu particulier il y a quand même presque un siècle, plus d'un siècle.
Avant tout ça, un peu de musique. Et oui, là, une partie de la musique du film Le Bal d'Ettore Scola. Et nous, c'est vrai qu'on a envie de danser, on a envie de bouger. Et dans ce film-là, il y avait une autre musique, c'était celle d'Edith Piaf, La vie en rose, mais une version un peu particulière. Alors La vie en rose, puisqu'on a envie de voir La vie en rose, même s'il pleut aujourd'hui, pour nous, ça suffit. Et voilà, La vie en rose sur Radio Zone 93.8.
Uh-huh. Lorsque les pois ou les poireaux bouillent dans le pot qui est mis hors du feu, sachez alors qu'il n'y a nulle sorcière en la demeure. Si on s'abstient de torcher son derrière avec des herbes, des feuilles ou des verdures qui ont poussé sur terre, on n'aura jamais mal au dos ni aux reins. Celui qui n'a pas d'argent en sa bourse doit s'abstenir de regarder la nouvelle lune. Autrement, il n'en aura guère tout au long de cette nouvelle lune. Si vous craignez que votre chien soit mordu par un chien enragé, faites-le manger et boire dans un trépied. Et il sera ce jour-là protégé de la rage.
Qu'est-ce que ceci des dictons? Ce n'est pas les dictons de Romu Ménage, c'est des recettes un peu particulières. Et pour en parler ce soir, nous avons invité Christine Détra. Bonjour. Et Christine Détra, qui est ethnologue et assistante conservatrice du musée d'ethnographie annexe de Conches de Genève, c'est ceci?
Oui, au musée d'ethnographie.
Au musée, à Conches. Et en fait, on profite de l'exposition Terre de Femmes qui a lieu en ce moment à Conches pour évoquer un des aspects de la vie des femmes au XVe siècle. Alors, ce qu'on a entendu, c'est un extrait des évangiles des Quenouilles. Et en fait, ça va être notre principal propos aujourd'hui, c'est de parler de cet ouvrage. Qu'est-ce que c'est que les évangiles des Quenouilles? Quand est-ce qu'on l'a écrit? Pour qui? Pourquoi? Et comment? Alors, vaste sujet. Déjà, les évangiles des Quenouilles, de quoi s'agit-il? D'histoire religieuse, de fileuse, qu'est-ce que c'est?
Alors, l'évangile des Quenouilles, c'est un manuscrit qui a été édité, qui a été écrit, qui a été composé, disons, au XVe siècle. Et puis, il a été édité, et il a d'abord été édité dans des éditions de luxe, et il a été diffusé, évidemment, dans un milieu très bourgeoisial. Et il a connu un succès absolument faramineux. Il a été édité ensuite dans de multiples versions, il a été traduit, diffusé à peu près dans toute l'Europe, toujours sous ce titre de « L'évangile des Quenouilles ». Et puis, au milieu du XVIe siècle, il est totalement tombé dans l'oubli, en désuétude, on se moquait de tout ce qu'il contenait, et il a été redécouvert au début de ce siècle, ou disons à la fin du 19e, par des folkloristes qui ont vu dans les recettes qu'il contient, dans les ditons qu'il contient, un parallèle avec ce qu'il trouvait sur le terrain dans les provinces de France ou dans la campagne suisse au début du siècle.
Mais pourquoi les évangiles?
Pourquoi les évangiles?
C'est un peu religieux, plus qu'un peu du reste.
Oui, alors bon, là je crois qu'il faudrait raconter le comment et le ton de ces récits. Les évangiles, parce qu'au fond il y a beaucoup de dérision dans l'ensemble du manuscrit. Et alors, pour savoir un petit peu de quoi il s'agit, on ne connaît pas l'auteur de ces évangiles, mais ce que l'on sait, après plusieurs déductions, c'est que probablement il s'agit d'un auteur, qu'il s'agit d'un homme âgé. Et cet homme âgé raconte ce qui s'est passé. Évidemment, c'est son récit, ce n'est pas ce qui s'est réellement passé. Il faut imaginer que son travail à lui, c'est un travail d'ethnologue, de folkloriste, mais du XVe siècle.
Déjà à l'époque, ça se faisait de se préoccuper des coutumes?
Non, pas du tout. C'est justement ça qui fait l'intérêt de ce manuscrit et qui fait qu'il est totalement unique. Je crois que ce qui s'est passé, c'est qu'une personne s'est trouvée un peu en décalage avec son époque et a vu et a peut-être été sensible à quelque chose qui disparaissait, a été en contact avec des tas de connaissances, tout un savoir, d'abord féminin, et que se sentant en décalage avec ce savoir, voyant que tout cela disparaissait déjà à l'époque, il a eu un réflexe au fond de folkloriste, un réflexe d'ethnologue, de noter tout ce qu'il entendait.
Mais il est même un peu ironique, alors à la limite on peut imaginer qu'il voulait faire un best-seller du 15e.
Non, je crois qu'il est très ironique aussi dans ce titre, s'il choisit les évangiles, parce que s'il est en décalage, et que probablement ce décalage lui permet de voir qu'il y a certainement un intérêt dans toutes ces choses, il est en même temps très proche de tout ça. Il est encore dans ce milieu de croyance, il est encore dans cette culture, et quelque part, il se rend compte qu'il y a croyance de bonne femme, entre guillemets, intérêt à ça, mais en même temps, il n'aimerait pas être pris pour quelqu'un qui y croit sans mettre une distance.
Et pourquoi? Alors, évangile des Quenouilles?
Alors, on peut encore dire un mot sur évangile, c'est que... Bon, cet homme raconte qu'il a été invité 6 soirs de suite, un chiffre 6, un chiffre un peu magique, à assister à des réunions de femmes. C'était le soir, dans la période entre Noël et la Chandeleur, Et les femmes se réunissent et racontent et comptent. C'est la veillée. Et ces soirs-là, c'est une semaine très très spéciale, où il y a six conteuses privilégiées qui vont prendre la parole et qui vont raconter tout ce qu'elles savent sur les bêtes, sur les gens, sur les enfants, sur les astres, etc., à tour de rôle. Et que ces femmes, qui se donnent elles-mêmes le titre de doctoresse, ne savent en même temps pas écrire. Alors, elles invitent un homme, qui est l'auteur des évangiles, à venir là comme secrétaire et à assister d'une façon tout à fait discrète et à noter tout ce qui va être dit. Alors elles se disent doctoresse, elles se disent prêtresse, elles se disent doctoresse dans le sens aussi professeur d'université, on dirait aujourd'hui. Et c'est dans ce sens-là que lui reprend ce titre d'évangile.
Ah d'accord.
Mais on ne peut pas imaginer que... Évidemment, il ne faut pas imaginer que tout ça s'est passé réellement comme ça. C'est simplement que toutes ces croyances étaient dans l'air, étaient connues à cette époque et que quelqu'un a pris soin de les noter.
Et des quenouilles alors ?
Et des quenouilles parce que je crois que tout ce savoir se transmettait à l'occasion de la veillée et que l'un des emblèmes de la veillée, c'est la quenouille. Parce que ce qu'on fait au moment de la veillée, donc où on se rassemble, peut-être que c'est même plus évident aujourd'hui ce que ça veut dire la veillée, donc ces longues soirées d'hiver, les femmes se rassemblaient, mais en général dans une assemblée mixte, il y avait aussi des hommes et beaucoup d'enfants, et les femmes avaient comme activité principale de filer, on ne restait pas sans rien faire.
La quenouille, ça ressemble à quoi? Je crois qu'au musée...
la oui, quenouille, c'est un bâton.
C'est un bâton. Oui, parce que moi, au début, on me disait une quenouille. Alors, je pensais à ces histoires de fées qu'on m'avait racontées, ou de sorcières. Alors, je voyais un petit truc en fer, comme ça, avec lequel on pouvait se piquer. Et quand je suis arrivée au musée et que j'ai vu les bâtons, je me suis dit, mais ciel, je n'y connais rien.
Oui, alors la quenouille, c'est... Bon, la quenouille, en tout cas, il y a une chose, je crois, qui est restée un peu dans la mémoire des gens, c'est que la quenouille est liée au fil. Il y a quelque chose entre quenouille et fil. La quenouille, c'est un bâton, mais un bâton souvent décoré, qui était fixé soit dans un support, soit dans le rouet lui-même, et qui servait à soutenir le chanvre ou la soie, enfin, ou n'importe quel fil, pas souvent la laine, brute. Donc, il faut imaginer qu'on a le fil en vrac et qu'on va le filer avec le rouet ou avec le fuseau. Mais il faut qu'il soit soutenu par quelque chose et on l'attachait le long de ce bâton.
Alors, pour en venir aux évangiles des quenouilles, vous avez dit que c'est un texte donc, qui a été plus ou moins inventé, enfin, en partant
non,
de quelque chose...
Non, probablement... ce qui a été inventé, c'est pas le texte, c'est la forme.
C'est la forme.
C'est la forme. Ce qui est inventé et inventé et aussi calqué sur les récits, sur d'autres récits très en vogue au XVe siècle, c'est d'avoir distribué tout ce savoir en six épisodes qui se succèdent dans la semaine, le lundi soir, le mardi soir, le mercredi soir, etc. Et où chaque soir, on a une femme qui est la maîtresse de cérémonie, qui dit bonsoir, qui salue les gens et qui commence à parler et qui raconte un certain nombre de choses qu'elle sait, qui sont d'ailleurs des choses souvent à mourir de rire, comme ce qu'on a entendu tout à l'heure.
On en entendra encore du reste.
Voilà. Et qui sont... bon, des choses qui, moi, m'ont beaucoup intéressée parce que je les trouvais... je trouvais aussi que quelque part, elles étaient très actuelles. Je trouvais qu'il y avait des choses qui me faisaient beaucoup rire, mais en même temps, je trouvais qu'il y avait dans beaucoup de choses une actualité.
Ah ben ça m'intéresse beaucoup parce que pas plus tard que hier soir, je faisais de la publicité pour notre émission, comme d'habitude, on me dit les évangiles des quenouilles, j'en lis un petit bout, on me dit mais c'est complètement ridicule, c'est complètement dépassé, ça n'a aucun intérêt. Alors bon, j'étais un peu refroidie, alors j'ai essayé de démontrer l'intérêt que ça avait. Alors vous qui voyez quelque chose de très actuel, alors je crois qu'il faudrait peut-être un peu préciser.
Oui, moi je sais pas, prenons un exemple... bon, si on, par exemple, périodiquement, on reparle par rapport aux maternités de la question du moment de la venue au monde des enfants. Est-ce que les enfants naissent, est-ce que la pleine lune influence le nombre de naissances des enfants? Alors, il y a des vieilles sages-femmes qui disent oui, il y a leurs collègues tout aussi vieilles du même âge qui disent non, il n'y a aucune... aucune statistique qui permet de démontrer le lien, un lien total, définitif, entre pleine lune et naissance. Et pourtant, aujourd'hui encore, si vous êtes enceinte, vous allez avoir forcément des tas de gens qui vont vous dire « Ah, c'est bientôt la pleine lune, tu vas accoucher ». Et ça, c'est, disons, ce type de préoccupation par rapport à quelque chose sur laquelle on n'a pas prise, ces mêmes préoccupations existaient au 15e, et on avait le même type de réponse, enfin de questions qu'aujourd'hui, par exemple, la pleine lune. Mais on pourrait donner, énormément d'exemples. Il y a par exemple un de ces préceptes qui est en fait un vrai test de grossesse, où on dit si une femme veut savoir si elle est enceinte ou pas, il y a la recette, qu'est-ce qu'elle doit faire. Alors elle doit effectivement pisser dans une bassine spéciale. Et en fait, si on lit ça, c'est un test de grossesse. Et
un peu de musique.
Un peu de musique.
C'était Sophie Marceau. On s'était dit au cinéma, on n'aime pas trop, c'est pas terrible. On va voir comment elle chante. On n'a pas genre parole. On n'a pas été tout à fait satisfaite, mais enfin, on s'est dit pourquoi pas. Et nous repartons. Nous faisons un petit retour dans le temps. On se retrouve au 15e avec Christine Détras pour parler des évangiles des Quenouilles. Vous m'avez dit qu'en fait, cet homme qui a réécrit ce savoir féminin voulait quand même s'en distancer. Et ça a eu un énorme succès. Alors, les gens qui le lisaient, pourquoi ils y croyaient? Ils cherchaient des recettes ou bien ils avaient envie de s'amuser, tout simplement?
Je crois qu'il y a eu il a connu un succès en deux temps. Dans un premier temps, il a eu un grand succès dans une classe de bourgeois. de grands bourgeois qui se sont vraiment amusés, divertis. Enfin, on imagine des gens qui sont... Pour eux, ça devait être le savoir du peuple. Ça devait être ils devaient se sentir très, très distants de tout ça. Et ils se les lisaient entre eux comme divertissement. Mais dans un second temps, ces savoirs ont vraiment connu un succès qui était un succès populaire parce qu'il y a eu une sorte de réappropriation de ce savoir par les gens. Alors là, on est vraiment au niveau du peuple.
Mais est-ce qu'on feuilletait l'ouvrage en se disant « Bon, alors aujourd'hui, j'ai mal au rein » ou bien « Je ne veux pas avoir mal au rein, alors je ne vais pas faire comme ci ou comme ça. »
Mais je crois que oui. C'est-à-dire qu'on était dans une période où tout ça était encore très présent dans les mémoires, mais on ne savait plus très bien. Et on recherchait comme on a eu consulté un almanach ou comme on consulte aujourd'hui un traité...
D'homéopathie,
peut-être.
Pour savoir si les orties, c'est vraiment ça.
Et voilà, je crois que c'était un peu on en a fait un peu le même traitement.
Mais pourtant, par rapport aux narratrices aussi, enfin celles qui sont considérées comme narratrices, il y a quand même quelque chose, on peut en dire quelque chose. Ces femmes, c'est pas n'importe lesquelles.
Alors ces femmes, c'est assez marrant parce qu'elles sont présentées par le secrétaire. Là, il prend la plume à la première personne, hein, il les décrit, il en fait le portrait. Et c'est un portrait absolument abominable parce qu'il les montre vieilles, laides, anciennes prostituées, en tout cas femmes de mauvaise vie, qui probablement a beaucoup voyagé, mariée avec, pour la 11e fois avec un prêtre. Il en fait, et puis assez sotte quelque part. Illettré, etc. Donc là aussi, il se distance. Il dit je vous livre un savoir, mais il faut savoir d'où vient ce savoir. Je crois que pour se replacer peut-être un peu dans l'époque, pour mieux comprendre ça, je crois qu'il y a toujours eu des grands points d'interrogation qui entourent des gens qui savent ou qui sentent un peu mieux les choses que le commun des mortels. Et je crois qu'on le connaît aussi très très bien aujourd'hui, ou on le connaissait très très bien avec les rebouteux. Quand on sait que quelqu'un a des pouvoirs ou a un fluide que tout le monde n'a pas, à la fois on en a besoin, mais on se méfie. Et il est un peu à part dans la société, dans le village. Et je crois que là, c'était un peu la même chose. On a évidemment qu'il faut qu'elles soient âgées, parce que bien sûr que c'est les personnes âgées qui détiennent le savoir, contrairement à nos générations, et que c'est les personnes âgées qui vont, en l'occurrence pour ce type de savoir, les femmes, qui vont devoir le transmettre aux générations plus jeunes.
Alors on va rentrer un peu dans ce savoir. Alors tout d'abord, il y a toute une série de recettes pour se soigner, que ce soit des bêtes, que ce soit les hommes ou encore pour éloigner le diable.
Si on veut nourrir et élever des petits chiens sans qu'ils croissent trop, on doit le matin laver ses mains avec beaucoup d'eau et mouiller avec cette eau le pain qu'on donne aux chiens et leur donner cette eau à boire. Alors jamais plus ils ne grandiront, pas plus que les mains qui ont touché cette eau. Si la nuit, on laisse sur la table la nappe étendue et que les souris viennent sur cette nappe manger les miettes de pain qui y sont restées, quiconque le lendemain mangera sur cette nappe verra ses dents devenir noires et pourrir bientôt après. Pour guérir les fièvres continues, il faut écrire les trois premiers mots du Pater Noster sur une feuille de sauge du pays, en manger trois matinées de suite et la fièvre s'en ira. Si un cheval s'est tordu la jambe ou le pied, alors il faut le chevaucher vers la maison du prêtre et l'appeler du dehors et s'en retourner aussitôt sans lui parler. Alors certainement le cheval ira tout droit comme avant sans sentir la moindre douleur. Je ne puis m'empêcher de toujours parler des choses à l'avantage des hommes, bien que je sache qu'ils ne font guère compte de nous, car ils tiennent leurs parlottes et bavardages à notre sujet pour en faire reproche à notre sexe. Mais je veux encore vous dire que si une femme vient d'attraper les fièvres, elle doit oindre tous ses conduits de miel le premier jeudi après qu'elle les a eus. Alors, elle en sera quitte et délivrée.
Voilà, alors des recettes, il y a de tout. Hein. Il y a pour des animaux, pour les femmes.
Oui, je crois que ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est de voir que les recettes sont absolument identiques. On vit dans un monde total où une recette est valable aussi bien pour une vache que pour une femme. On vit dans un monde difficile et on vit dans un monde difficile qu'il est possible d'améliorer. Alors ces recettes, oui, elles font un peu rire et puis en même temps, elles nous rappellent que nous aussi, on essaye, on est très sensible, on aimerait bien que les orties fonctionnent, que enfin nous apportent aussi quelque chose, etc. Dans toutes ces recettes, il y a un mélange, il y a toujours une lecture à plusieurs niveaux et puis un mélange, par exemple, entre on a recours d'une façon très directe à la religion. Bon, ça peut paraître évident, on est dans un monde très religieux, catholique, alors bon, on se dit le béni, les prêtres, tout ça, ça va aider. On leur apprenait ça, donc c'est là. Mais en même temps, continuellement, on se moque totalement de la religion. Et par exemple, il y a une recette qui montre qu'il faut adorer les astres, qu'il faut adorer le soleil, qu'il faut adorer la lune, parce que c'est un des moyens de devenir riche et que plus on adorera le soleil, plus on sera récompensé.
Ça fait rêver aussi.
Oui, ça fait rêver et on oublie, j'ai l'impression qu'on oublie aussi tout le temps qu'on est au XVe siècle, c'est-à-dire que je crois que ce que les folkloristes ont trouvé au début du siècle, c'était très semblable, que dans les évangiles, avec les évangiles des quenouilles, on est en Picardie, mais quelque part, on pourrait être très près de chez nous, et que dans le temps, eh bien, c'est vrai, quelque part, on pense à nos grands-mères, et ça nous touche, on arrive presque à toucher tout ça.
Alors, il y a aussi, bon, il y a toute une série de conseils. Alors maintenant, il y a aussi les bons et les mauvais signes. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un signe ?
Alors, un signe, il faut imaginer qu'on vit dans les évangiles, dans un monde où tout est signe. C'est-à-dire que vous sortirez tout à l'heure, il pleut. Il pleut, mais il fait un peu gris.
C'est signe de déprime, ça.
Ça, c'est signe de déprime.
Non, enfin bon.
Non, mais il y avait une lecture et une attention vraiment au monde, à tout le monde. Alors, il y a les signes qui vont annoncer la pluie. Alors, par exemple, la façon dont vont chanter les moineaux. Mais il y a des choses dont les vieux, aujourd'hui, savent encore très, très, très bien lire, parce que quelque part, la pluie n'arrive pas n'importe comment, le vent est annonciateur de quelque chose, etc. Mais bon, c'est pas seulement une histoire de météo, il y a aussi les bons et les mauvais signes. Évidemment, la mort, par exemple, on a bien envie de pouvoir la cerner un peu mieux, de savoir quand est-ce qu'elle vient, donc il y a des signes. Alors, je ne sais pas, par exemple, les pies, les corbeaux, sont des annonciateurs de mort. Les chats, suivant la manière dont ils vont se gratter derrière l'oreille, peuvent être annonciateurs de pluie. Il y a d'autres oiseaux qui, eux, vont annoncer plutôt des choses bénéfiques.
Quand on voit des petits-enfants courir parmi les rues sur des chevaux de bois en tenant des lances ou déguisés en gens de guerre, c'est signe certain de guerre prochaine ou de dissension dans le pays. Je vous dis pour évangile que si quelqu'un se met en chemin et qu'un lièvre traverse sa route, c'est un très mauvais signe. Pour éviter tout danger, il doit par trois fois retourner d'où il vient avant de poursuivre son chemin. Alors il sera hors de péril. Quand les oreilles vous démangent, sachez pour vérité comme évangile que si c'est la droite, ce sera de bonnes nouvelles. Si c'est la gauche, elles seront mauvaises. Si vous voyez un chat assis sur une fenêtre au soleil se lécher le derrière et lever sa patte pour la passer au-dessus de l'oreille, alors ne doutez pas qu'il ne pleuve ce jour-là. Quand les chiens hurlent, on doit se boucher les oreilles, car ils apportent de mauvaises nouvelles. Par contre, on doit ouïr le cheval quand il crie ou hennit. Quand une femme a la gorge qui lui démange, c'est l'annonce que très bientôt elle ira à des noces ou à des relevailles faire bonne chère. Mais quand la tête la démange, c'est signe contraire, car elle pourrait bien être battue par son mari. Quand vous verrez la lune, la nuit choir une étoile, tenez pour vrai que c'est signe que l'un de vos amis est trépassé, car chaque personne a une étoile au ciel qui tombe quand il meurt.
Le mystère des voix bulgares pour entourer un peu tout ce sujet à propos du savoir féminin au XVe siècle, plus précisément les évangiles d'Ekenouille. Et dans ces évangiles, il y a alors un sujet qui est bien abordé, c'est celui du couple. Alors, toute une série de conseils, comment se faire aimer d'un homme, comment choisir son mari, comment vivre heureux en mariage, ou encore, on peut aussi apprendre ce que risque celui, par exemple, qui bat ou qui vole sa femme. Alors ça, c'est toute une histoire.
C'est toute une histoire, oui. Parce qu'on se rend compte qu'au fond, les couples n'étaient en tout cas pas plus stables que les couples que nous connaissons
nous
aujourd'hui.
Nous voilà rassurés.
Alors, il y a des recettes, et on s'imagine très bien ces vieilles dames, apprenant aux jeunes filles d'abord à reconnaître leur futur. Alors il y a, mais aujourd'hui encore, enfin ou très très proche de nous, il y avait toutes sortes de traditions pour essayer de deviner quel sera l'heureux élu ou l'homme qui allait demander votre main. Alors il y a des jours spéciaux par exemple où vous êtes, où vous savez que la première personne que vous allez croiser sur votre chemin, par exemple, jusqu'à très récemment en Angleterre, à l'occasion de la Saint-Valentin, le matin de la Saint-Valentin, la première personne que vous croisiez portait le prénom de votre futur fiancé.
Quand je pense toutes les Saint-Valentins que j'ai passées sans le savoir. Enfin.
Mais évidemment que ces couples qui se forment, vont devoir avoir un sérieux coup de pouce pour pouvoir rester ensemble et aussi qu'il y a toutes sortes de manières d'arriver un peu à anticiper sur la défaite d'un couple. Par exemple, déceler l'adultère, déceler l'infidélité de votre partenaire, etc. Et puis, il y a aussi une manière, il ne faut pas oublier que ce sont des vieilles femmes qui racontent et que ces vieilles femmes ont souvent des maris beaucoup plus jeunes qu'elles. Alors, il y a aussi beaucoup de recettes qui touchent à la manière de garder l'élu de son cœur ou en l'occurrence de garder un homme plus jeune.
Mais ce qui est frappant quand même dans ces histoires de couple, c'est que si avant on faisait des rapports à la religion du genre si un cheval a mal à la patte, il faut aller jusque devant chez le curé et puis pas prononcer un mot et s'en aller, ça ira mieux. Mais là par contre, alors on parle de couple mais on parle plus du tout de religion. Au contraire, il y a quelques conseils à propos d'un prêtre qui pourrait avoir une relation avec quelqu'un d'autre, mais disons la religion leur apparaît sous un angle totalement différent.
Tout à fait. Alors là, on a vraiment l'impression que le sacrement du mariage est bafoué d'un bout à l'autre et qu'en fait, moi j'ai l'impression que là il y a vraiment une tellement grande honnêteté. Les évangiles parlent d'une situation extrêmement terre à terre, du vécu au niveau des couples, et là toutes les doctrines et toute la doctrine religieuse est totalement oubliée. On est dans le concret. Les prêtres, d'accord, on peut y recourir, mais les prêtres, ce sont aussi des hommes, donc qu'est-ce qui se passe si une femme a une relation avec un prêtre? Comment est-ce qu'elle... Et là, on voit qu'il y a que tout n'est pas perdu, qu'elle n'est pas forcément damnée à tout jamais, que les enfants qui vont naître de cette union non plus.
Là, toujours à propos des couples, alors on va quand même entendre encore un petit extrait de la question pour se rendre vraiment compte de quoi il s'agit.
Si une fille veut savoir le nom de son mari à venir, elle doit tendre devant la porte de sa maison le premier fil qu'elle filera ce jour-là et demander le nom du premier homme qui passera. Qu'elle tienne pour certain que le nom de cet homme sera celui de son mari. Pour aussi vrai qu'évangile, je vous dis que lorsqu'un jeune homme puceau épouse une jeune fille pucelle, le premier enfant qu'ils ont naît habituellement fou.
Je crois que là, si je puis me permettre une petite remarque, ce précepte je le trouve très très intéressant parce que dans un monde hyper religieux qui malgré tout place la virginité dans un... quand même comme un but à atteindre, c'est assez merveilleux de voir que parallèlement au niveau du savoir populaire on tenait compte de la réalité de vie des jeunes et celui-ci qui vraiment détruit totalement l'idéal de la virginité est magnifique.
Sachez qu'un homme marié qui prend une compagne et qui est incapable de parvenir à aucune dignité, et que si sa femme lui rendait l'appareil, il serait, lui, la cause des deux maux, et sa femme devrait être tenue quitte et sans punition. Quand on baptise un enfant fils ou fille, si la fille a deux parrains, elle aura deux maris ou plus. Si le fils a deux marraines, il vit jusqu'à l'âge d'homme, il aura deux femmes ou plusieurs. Tenez pour vrai comme évangile que si la chaussure d'une femme ou d'une fille se déplace dans la rue et qu'elle la perde, c'est signe certain que son mari ou que son ami se dévoie. En conclusion, mes amis et voisines, pour mettre la fin à mes chapitres, je vous dis que si une femme vient à avoir le mal des mamelles, elle doit demander à son mari de lui faire avec son instrument naturel trois cercles autour du mal et elle en guérira sans aucun doute. Quand une femme se lève la nuit pour pisser avant que le coq n'ait chanté pour la troisième fois, si elle enjambe son mari, sachez que si son membre est raide, il s'amollira à jamais, à moins qu'elle ne retourne en son lieu en passant à l'endroit où elle l'a enjambé. Si une femme veut que son mari aime tous ses enfants fortement, qu'elle prenne de l'urine de tous ses enfants et la mélange à de l'eau belle et claire, et pendant 9 jours, sans que son mari le sache, qu'elle lui en fasse laver les mains et le visage, et sans faute, il aimera ses enfants très fort.
Il est vrai qu'en réentendant ces conseils, on peut se dire que c'est pas du tout si dépassé, qu'il est vrai qu'en ce moment, on a tendance à, il suffit de se dire naturopathe et je ne sais quoi, à croire un peu tout ce qu'on nous dit, ça nous rassure, c'est vrai, d'essayer mille et une recettes.
Oui, tout à fait. C'est là que je le vois. Dans la sensibilité que ça évoque chez nous, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très actuel. Et que, bon, la grande différence, je crois que là, il faut imaginer que tout ça appartenait à une culture, à un ensemble. Tandis que chez nous, c'est dans une vie très éclatée, le recours à la